Bonjour à tous, sans doute un peu plus reposé avec ce changement d'heure. Paul répond aux doutes sur la résurrection dans notre section d'un Corinthiens 15. Pour ceux qui suivent depuis des mois notre pérégrination dans 1 Corinthiens, ceux qui ont suivi tous les cultes, Paul poursuit toujours dans le contexte mouvementé de l'église de Corinthe, à partir du verset 29, 1 Corinthiens 15. Je dirais notre condition humaine, avec toutes les choses de la vie que nous partageons comme humains, au travail, la famille, les études, la recherche d'un travail, construire sa vie pour les plus jeunes, la finir convenablement pour les plus âgés, la maladie pour certains. Toutes ces choses nous touchent et font notre vie. Et Paul désire affirmer ici la réalité de la résurrection et sa nécessité, son caractère indissociable du salut. Le samedi 27 septembre 2025, plus de 1300 personnes ont répondu à l'appel de Franklin Graham. Parmi eux, il y aura des conversions réelles. D'autres auront eu peut-être un mouvement émotionnel. Mais beaucoup sont venus des églises et étaient aussi le fruit d'un travail de préparation dans le parcours de ces personnes. Dans mon équipe de conseillers, il y avait deux jeunes filles de Berchem, près d'Anvers. Et un homme jeune les accompagnait, était assis à côté de nous. Et l'une de ses filles priait. Et je n'avais pas de difficulté à imaginer l'objet de sa prière avant la prédication. La veille, Franklin Graham avait déclaré qu'il ne sait pas expliquer comment se produit le changement dans une vie. Comment des personnes répondent à l'appel. Mais ce qu'il sait, c'est que cela se produit. Ce que je sais, et ce que beaucoup parmi nous savent, c'est que lorsque Dieu, par son Saint-Esprit, vient changer une vie, vient habiter une vie. C'est une assurance, comme Alex le rappelait le 28 septembre dernier. Jésus est le chemin. Lorsqu'on a trouvé ce chemin, on le parcourt et on n'en cherche plus d'autres. On maintient le cap avec l'aide de Dieu dans ce que la parole de Dieu appelle la sanctification. On se tient à l'écart des autres chemins qui ne feraient que nous faire perdre notre temps vers notre destination finale. Pour le reste, nous apprenons à nous construire en Christ. Et c'est tout ce qui édifie le corps de Christ dont nous sommes, parce que adoptés comme son enfant. Une fois la vie changée, une fois nous sommes renouvelés en notre esprit par le Saint-Esprit de Dieu, comme l'écrit l'apôtre Paul. C'est ce que symbolise le baptême, une fois mort en Christ et revenu à la vie par la réconciliation avec Dieu. Notre péché est pardonné parce que hors de la vie en Christ, nous ne pouvons pas lui plaire. La justice de Dieu est satisfaite à la croix. La mort est vaincue parce qu'elle est la conséquence de l'état de péché. Ô mort, où est ton aiguillon ? Où est ta victoire ? Depuis la Genèse, quelle que soit l'image de la désobéissance, la prise délibérée d'une voie de transgression de l'ordre de Dieu, du Dieu créateur, Dieu a dit « Vous mourrez ». Et c'est ce qui est arrivé. L'adversaire de Dieu a fait son œuvre. Et c'est ainsi que la mort est toujours une tristesse, un déchirement. Jésus et Lazare montrent que combien la perte d'un être cher est douloureuse. En Jean 11, nous avons le récit de Jésus qui reçoit un message des sœurs de Lazare, Marthe et Marie. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et au verset 4 de ce chapitre, Jésus dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Quelques jours plus tard, ils se mettent en route, Jésus et ses disciples, et Lazare est mort depuis 4 jours. Au verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et au verset 22, « Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Verset 23, Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répond Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Et Jésus lui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Et elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Plus loin, au verset 33, « En voyant pleurer Marie, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ? » Et Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Et puis, le verset 35, deux mots, « Jésus pleura. » Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Au tombeau, Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. » Car il y a 4 jours qu'il est là. La décomposition a commencé, c'est évident. Et Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre, et Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'écoutes toujours. » Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Plus tard, avant la Pâque, au chapitre 12 de l'Évangile de Jean, Lazare était à table avec Jésus. Ce n'est donc pas une résurrection dans un corps glorifié que celle de Lazare. Mais il est clair que Dieu a ressuscité Lazare alors que la putréfaction avait commencé à l'atteindre. Lazare mourra une seconde fois comme d'autres ressuscités dont nous avons la trace dans le Nouveau Testament. Marthe, dans sa réponse à Jésus, témoigne de ce qu'elle sait, qu'il y aura une résurrection au dernier jour. Jésus lui confirme qu'il est la résurrection et la vie, et que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Et il dit encore, « Toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » On pourrait se croire un peu dans un film de science-fiction, n'est-ce pas ? Où des robots mi-humains, mi-machines, on n'arrive pas à les détruire parce qu'ils se reconstituent. On peut se demander où ces auteurs de ces films et de cette littérature puisent leur inspiration. En Matthieu 22, versets 23 à 33, nous lisons « Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent trouver Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier s'est marié et est mort, et comme il n'avait pas d'enfant, il a laissé sa femme à son frère. Il en est allé de même pour le deuxième, puis le troisième, et ce jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme est morte. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme ? En effet, tous l'ont épousée. Et Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Abraham vit toujours, mais dans une autre dimension. Dans le précédent message apporté par Patrick, nous lisons au verset 26 du chapitre 15 de 1 Corinthiens, « Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toute chose. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. » Et c'est après ces affirmations magistrales qui envisagent la fin de toute chose, je dirais comme Marthe qui évoque le dernier jour, que Paul évoque une chose étrange au verset 29 de notre section. 1 Corinthiens 15, 29. « S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? » Alors là, on sent le sol mouvant en dessous de nos pieds, parce que nous n'avons pas connaissance d'une pratique, nous, qui parle de se faire baptiser pour des morts. Il s'agit manifestement, pour ceux qui auraient pratiqué cela, d'une grande conviction en ce qui concerne la résurrection future. On se heurte à une difficulté historique qu'on ne réussit pas à interpréter d'une façon définitive et dogmatique. Plusieurs ont tenté d'expliquer à quoi l'apôtre fait allusion. Campbell Morgan écrit que d'aucuns ont voulu suggérer que celui qui comblait le vide laissé par un ami défunt et continuait son œuvre se faisait baptiser à sa place. Ce théologien dit que personnellement, il ne voit pas comment peut se justifier une telle interprétation. Si l'apôtre se réfère à une coutume de l'époque, mais il s'en sert uniquement comme d'un argument, il ne la justifie pas du tout. Peut-être que quelqu'un décédé avant d'avoir pu se faire baptiser, ben, c'est possible. Mais Paul montre l'inutilité d'un tel acte s'il n'y a pas de résurrection. Mais sur ce verset que certains appellent le plus difficile de l'Écriture à expliquer, John MacArthur, pour sa part, écrit qu'il s'agit d'un des versets les plus difficiles, mais il a donné lieu à toutes sortes d'interprétations hérétiques. Et comme déjà dit plus haut, on ne peut pas être dogmatique à cet égard. Cependant, à partir d'autres enseignements clairs, d'autres passages de l'Écriture, on peut être dogmatique quant à certaines choses qu'il ne signifie pas. Le reste est obscur. Pas de baptême indirect ou par procuration, comme le prétendaient des hérétiques gnostiques de l'Antiquité, comme Marcion, et comme le prétend aujourd'hui l'Église des Mormons. On est plus près de nous, là. Pas de salut au travers du baptême, ni même nécessaire au salut. L'Écriture n'affirme pas cela. Le salut ne s'acquiert que par la foi personnelle en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. Personne n'est sauvé par le baptême, pas même les morts. Je connais une personne que je savais ne pas être baptisé et qui est décédé. Jamais il ne me serait venu à l'idée de considérer le verset que nous venons de lire. Toutefois, il est encore une interprétation qui prend sous un autre angle cet aspect, celui du témoignage chrétien de ceux qui sont morts. Au point d'être amené à la foi et à in fine se faire baptiser, non pour un mort, mais à cause de celui qui est mort. Sa foi était tellement impressionnante que certains sont venus eux-mêmes à la foi. Et donc, on pourrait dire que c'est la conséquence de la foi du défunt qu'ils se sont fait baptiser, parce qu'ils ont cru. J'avoue être dubitatif sur ce point, mais laissons tout cela. Tenons-nous à ce que dit le conseil de Dieu dans l'Écriture au sujet du baptême. Et restons-en là. Cette partie de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 29, est à la fois, une incitation au service fidèle, déterminé et persévérant, et deux, une exhortation appuyée à la sanctification. Comme ça, nous savons où nous allons. Cette section qui, comme nous pourrions le dire, consiste aussi en un exposé de la souffrance dans la persécution. C'est bien le mot qu'il faut employer pour ce que nous lisons au verset 30 de notre section. Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger ? Chaque jour, je risque la mort. Aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ, notre Seigneur, verset 32, si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu, contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. C'est l'attitude épicurienne que Paul évoque ici. Profiter de la vie, goûter à tous les plaisirs, passions, voluptés de la chair. Et nous savons qu'à Corinthe, on ne s'en privait pas. Devenons de vrais matérialistes. Ne nous imposons pas cette rigueur d'une foi engagée qui conduit à tant de risques et d'épreuves. Je viens de passer 3 jours avec l'ancien directeur de Porte Ouverte à notre pastorale, dont l'objectif était de faire le point sur l'encouragement que l'Église persécutée nous transmet, malgré les dangers, les peines et les risques. Il a même été question de chrétiens qui appelaient de leur vœu une persécution parce que l'Église s'endormait. Un paradoxe, mais aussi une réalité. Nous pouvons aussi être tentés par la somnolence. Mais ne nous y trompons pas, l'adversaire ne manquera pas de nous faire une piqûre de rappel. Sommes-nous toujours si fidèles ? Est-ce normal de ne pas avoir d'opposition plus flagrante à l'Évangile ? Aujourd'hui, cela se limite à une émission moqueuse sur France 2, sur les évangéliques, un amalgame d'ailleurs de tous les évangéliques. Mais nous sentons bien que la société n'avance pas dans le sens d'un futur sans souci pour les chrétiens. Que dire alors ? Profitons du temps qui nous est donné. Oui et non. Nous aimons tous une vie paisible, sans ennui, mais... Verset 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les Corinthiens avaient fréquenté une société dépravée et écouté de faux docteurs. Nous avons médité sur ces chapitres de la première aux Corinthiens. Il y avait donc une explication à leurs faux raisonnements et leurs écarts de conduite. Verset 34, « Revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » On pourrait écrire ce verset et cette deuxième partie de ce verset sur une petite plaque, n'est-ce pas ? Pour bien s'en souvenir. Car certains d'entre vous, et il parle à l'Église, ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. L'apôtre tente de les arracher à cette intoxication mentale, à tous ces dangereux stupéfiants, comme le dit un commentateur. Croyons-nous vraiment être immunisés de comportements ou pensées qui n'honorent pas Dieu dans un monde tel que le nôtre? Pouvons-nous raisonnablement nous croire au-dessus de ce que le tentateur produit dans ce monde? J'entendais cette semaine la maman d'une fille qui s'est suicidée en France. Elle a été influencée par des vidéos incitatives au suicide sur TikTok. Il était aussi question de harcèlement à l'école, ce qui la rendait particulièrement fragile. Ne suffit-il pas de s'abstenir de ces choses ? Il en est de même pour la pornographie. Dans tout ce contexte, l'apôtre met en avant la réalité de la résurrection qui est le moteur de son service fidèle à Dieu. Ne croyons pas que ce soit uniquement pour l'apôtre. C'est aussi notre légèreté qui est en cause, nos cœurs partagés et notre manque de persévérance. Il met en avant les mauvaises compagnies qui sont souvent la cause d'écart de comportement. Les Corinthiens ont été séduits et le reproche est cinglant. Je le dis à votre honte. La résurrection au dernier jour, comme Marthe le disait à Jésus, est constitutive d'une espérance vivante. J'ai été surpris de voir combien les Égyptiens étaient préoccupés de la mort et de l'au-delà en visitant le deuxième plus grand musée d'égyptologie du monde, celui de Turin. Nous connaissons les pyramides et leur souci pour le bien-être des défunts, surtout les princes, après la mort. On meublait la chambre funéraire avec des objets pour la vie du défunt après sa mort. Toute leur science de l'embaumement, c'est incroyable, cette volonté de préserver les corps après la mort. On y voit une momie dont le visage et les cheveux sont conservés. Ils embaumaient même des animaux, des chats, bien sûr, un veau. Mais pour Paul, cela va bien plus loin. Savoir qu'une résurrection viendra et que Jésus nous précède, c'est une espérance qui doit avoir une influence déterminante sur le côté spirituel de notre être. Notre fin n'est pas une tombe. Un de mes oncles, un croyant, disait que sa fin serait le trou au cimetière. Je crois qu'il était malheureux, alors qu'il avait été en contact avec l'Évangile, sans pourtant jamais y répondre. Notre sagesse, dira Paul, va bien au-delà de la sagesse des philosophes. Au début de l'Épître, Paul déclare que la sagesse du croyant n'est pas de ce siècle et qu'elle n'est pas limitée à ce monde. Elle dépasse tous les enseignements d'ici-bas. Mais quelqu'un dira, verset 35, « Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils ?» Le fait de la résurrection est nié parce que la manière n'est pas comprise. Le processus n'est pas compris. On ne va pas se marier, disait Jésus, dans l'au-delà. Le processus n'est pas compris, il y a donc incapacité de croire que la résurrection aura bien lieu. La mort n'est-elle pas la désintégration du corps jusqu'à ce que le corps retourne à la poussière ? J'ai sciemment pris le passage de la résurrection de Lazare parce qu'après 4 jours, il sentait déjà. Et pourtant, Dieu a permis sa résurrection. Sa reconstitution n'était pas une impossibilité pour Dieu, le Créateur de toutes choses. Paul exprime en quelque sorte son dédain de ceux qui ne considèrent pas la résurrection comme un événement possible. 36 et 37, hommes dépourvus de bon sens. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. La résurrection n'est pas un mystère plus grand que ce qui se passe dans la nature, dans la création de Dieu. Verset 38, « Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. » Et puis tout l'univers est soumis à la souveraineté de Dieu, qu'il soit matériel ou spirituel. Mais cette réalité observable dans la nature sera un jour concrétisée par ceux qui ressusciteront d'entre les morts. Verset 39, les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère, même en éclat d'une autre étoile. Tous des corps différents selon leur nature. Et au verset 42, c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible et il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Le corps ressuscité n'est plus sous le contrôle de la vie naturelle. Mais le corps spirituel est dominé par l'esprit et le corps de la résurrection sera entièrement dominé par son essence spirituelle. Et au verset 45, c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. » Verset 46, « Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Le corps de Jésus ressuscité est un corps céleste qui passe les portes fermées. Il est ici, puis il apparaît ailleurs. Son aspect est différent. Il se fait connaître à ceux qu'il rencontre comme aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il convient de considérer que nous aussi, après avoir participé à la vie naturelle d'Adam, si nous sommes sauvés, ce qui est terrestre fera place un jour au céleste. À la résurrection, nous réaliserons dans toute sa plénitude ce qui n'est aujourd'hui qu'espérance et peut-être incompréhension. Si du moins nous l'espérons. J'avoue que tout cela me dépasse et vous aussi, je pense. Et c'est ainsi que Paul précise que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Verset 50, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons transformés. Ces événements sont liés à la seconde venue du Christ. Et 2000 millénaires se sont déjà écoulés depuis la première venue. Je suis interpellé par ce passage qui développe ce qui touche à quelque chose que nous connaissons par la lecture et la méditation de la parole de Dieu, mais c'est intimement lié à l'œuvre de Christ à la croix et qui donne tout son sens au pardon des péchés et à notre salut éternel. Sa mort et sa résurrection. Nous en parlons si souvent, mais est-ce que nous y pensons? Est-ce que nous comprenons ce qui va se passer. Au verset 53, il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Est-ce que nous considérons cette victoire ? Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de conclure, je lirai, il est bon de relire ensemble 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4. Les versets 13 à 18. Résurrection des croyants et retour du Seigneur. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La semaine dernière, un jeune frère de notre église me disait « La fin approche. » Nous ne pouvons rien affirmer. Ralph Norton, fondateur de la mission évangélique belge, était convaincu que le Seigneur allait revenir après la fin de la Première Guerre mondiale. Il n'a pas fixé de date, heureusement, comme les témoins de Jéhovah l'ont déjà fait. Mais c'était une sorte de conviction obsessionnelle qui le poussait à agir pour faire connaître le message de l'Évangile. Les églises qui ont été fondées à cette époque sont presque toutes toujours là. On en a fermé une il y a 3 ans. L'indice de persécution est au plus haut. L'Évangile est annoncé dans le monde entier. Sommes-nous incités au service fidèle, au service pour les choses qui comptent vraiment et qui, comme l'apôtre Paul nous y incite, devraient nous occuper dans notre vie personnelle, mais aussi dans l'Église? Donnons-nous ce que nous pouvons pour plaire à Dieu dans nos pensées, nos actes, notre consécration. L'être naturel que nous sommes se détruit, notre tente, comme dit l'apôtre Paul, et on ne peut rien y faire. Quelles conclusions en tirons-nous quotidiennement pour notre vie? Nous avons commencé notre passage par la tristesse de Marthe et Marie et les pleurs de Jésus sur son ami défunt. Cette tristesse face à la mort nous sera pour beaucoup, si pas tous, notre lot en tant qu'humains. Mais la perspective de la résurrection est indissociable de notre foi et de notre espérance. Dans notre passage d'1 Corinthiens 15, le verset 58 devrait, pour chacun d'entre nous, être, comme cette nuit, une remise à l'heure. Comme ce que nous avons fait hier soir ou ce matin, un réajustement des priorités multiples de notre existence. Chaque tiroir doit être visité à l'aune de la résurrection à venir et de notre espérance. Une forte exhortation, un encouragement et un incitant à travailler pour le royaume. Persécution, disons-nous. Sans doute, la persécution, pour nous qui vivons encore très paisiblement, elle est à venir. Mais elle est parfois à l'intérieur même de l'Église. Thomas Geronazzo, que nous connaissons, le mois passé, me disait « Tu ne peux pas imaginer la semaine que je viens de vivre, la plus dure de 14 ans de ministère, tant il y avait des conflits dans l'Église, tant j'ai eu de soucis avec toutes ces choses. » Un autre pasteur me disait avant-hier, 25 personnes ont quitté l'Église. Il dit, je vivais un enfer. Il y avait un frère qui, heureusement, a quitté l'Église, tenait un petit carnet avec tout ce que je faisais, ce que je disais, et qui venait après me trouver pour dire là et là et là. Une forte exhortation, un encouragement et un incitant à travailler pour le royaume. Lisons sans être des auditeurs oublieux. Verset 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur.